Vous écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 22h ici à Paris, 20h temps universel lors d'un nouveau journal.
Stéphane Genest.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette édition, le suspect dans la tentative d'assassinat présumé contre Donald Trump entendu par les enquêteurs. Première comparution devant un juge fédéral en Floride pour lui. Il est accusé de tentative d'assassinat à l'encontre du candidat républicain à la présidentielle de novembre. 2 ans après la mort de Mahsa Amini en Iran, le nouveau président du pays a tenu sa première conférence de presse. Il promet d'empêcher la police des mœurs de déranger les femmes du pays. Au sommaire également, l'Asie du Sud-Est frappée par un important typhon. Cela alors que la région se remet à peine du passage de Yagi la semaine dernière. Yagi qui a fait plus de 400 morts, essentiellement au Vietnam et en Birmanie. Et puis ce coup de théâtre à Bruxelles. Le français Thierry Breton qui claque la porte de la Commission européenne. Il se dit désavoué par la présidente Ursula von der Leyen. L'Élysée propose de le remplacer par Stéphane Séjourné. C'est donc cette question qui fait la une de l'actualité ce soir. Que s'est-il passé près de la résidence de Donald Trump en Floride? Le candidat républicain à la présidentielle aux États-Unis a une nouvelle fois échappé à une tentative d'assassinat. C'est la deuxième en seulement 2 mois. Un homme a été maîtrisé alors qu'il s'était approché du golfe de sa propriété. L'incident est donc officiellement considéré par les autorités américaines comme une tentative d'assassinat contre Donald Trump. Et à chaque fois, la protection de l'ancien président était assurée par le Secret Service. Le rôle de l'agence et surtout son efficacité demeurent au centre de l'attention, Guillaume Nodin.
Le Secret Service a besoin d'aide et le Congrès doit l'écouter. C'est ce que dit le président Joe Biden au lendemain de l'incident du golfe de West Palm Beach. Le speaker de la Chambre, Mike Johnson, réclame lui davantage de moyens pour la protection du candidat républicain. Dès la première conférence de presse qui a suivi l'incident, le responsable de l'agence chargée de la protection des personnalités soulignait le bon travail de ses agents. Ce sont eux qui, chargés de sécuriser le parcours de golf, ont repéré un homme armé, ont ouvert le feu préventivement et l'ont mis en fuite avant qu'il ne soit arrêté. Mais cela n'empêche pas les questions, comme par exemple, comment est-il possible de s'approcher avec une arme à moins de 500 mètres de l'ancien président? Ce sont un peu les mêmes questions qui se sont posées après la tentative d'assassinat de Butler en Pennsylvanie, où l'assaillant avait pu ouvrir le feu. Donald Trump avait eu l'oreille éraflée et était passé à quelques centimètres d'une balle dans la tête. L'enquête sur cet épisode est encore en cours, mais elle a déjà plusieurs conséquences. La directrice du Secret Service a démissionné et quand il s'exprime en public dans un lieu ouvert, Donald Trump le fait désormais derrière une vitre blindée. C'est d'ailleurs aussi le cas pour Kamala Harris lorsque la candidate démocrate prononce des discours en extérieur. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Par ailleurs, aux États-Unis, Boeing, toujours dans la tourmente, le constructeur qui fait face à une grève paralysant la production du 737 MAX. L'avionneur a donc dû prendre des mesures pour préserver ses liquidités devant ce mouvement social, parmi lesquels le gel des recrutements ou encore le chômage technique dans les prochaines semaines pour une partie de ses branches de production. Et puis c'en est fini pour l'armée américaine au Niger. Les autorités ont annoncé tout à l'heure avoir achevé le retrait des soldats et du matériel du pays conformément aux exigences du régime au pouvoir. L'Iran a commémoré ce lundi le 2e anniversaire de la mort en détention de Mahsa Amini. Cette jeune kurde de 22 ans arrêtée par la police des mœurs pour non-respect du port du voile dans le pays. C'est dans ce cadre que le nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian, a promis d'œuvrer afin que la police des mœurs ne dérange pas les femmes qui ne portent pas le voile obligatoire en public. Première conférence de presse, lors de laquelle il a aussi affirmé qu'il ne comptait pas rencontrer son homologue américain et qu'il allait renforcer ses capacités militaires face à Israël. Correspondance à Téhéran, signé Savage Ghazi.
Le nouveau président iranien qui doit se rendre à New York dans les prochains jours pour participer à l'Assemblée générale des Nations unies a rejeté toute possibilité de rencontre avec le président américain. Ce sont les Américains qui nous ont imposé des sanctions, créé des bases militaires autour de l'Iran. Ils doivent d'abord montrer qu'ils ne sont pas nos ennemis, a déclaré le président Pezeshkian. Il a également affirmé que l'Iran se réservait le droit de répondre à Israël pour l'assassinat d'Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas, tué à Téhéran fin juillet. Il a aussi affirmé que l'Iran allait renforcer ses capacités militaires face à l'État hébreu.
Ils nous disent que nous ne devons pas avoir de missiles. D'accord, mais vous devez désarmer Israël. Si nous n'avons pas de missiles, ce sera comme à Gaza. Ils nous verseront des bombes sur la tête quand ils voudront. Et si à ce moment-là nous protestons, ils nous diront de nous taire. Nous avons besoin de la puissance militaire pour assurer la sécurité du peuple de notre pays.
L'Iran compte renforcer ses relations avec la Chine et la Russie, des pays amis qui sont restés aux côtés de l'Iran, confrontés aux sanctions américaines et occidentales, a ajouté le président Pezeshkian. Il doit se rendre fin octobre en Russie pour participer au sommet des pays du BRICS et devrait signer un accord de coopération stratégique de 20 ans avec la Russie à cette occasion. Siavosh Kiazi, Téhéran RFI.
Les contrôles des frontières renforcés en Allemagne depuis ce lundi matin, qu'il s'agisse de celles avec la France, de la Pologne ou encore de la République tchèque, toutes les frontières sont concernées. Berlin explique cette décision pour faire face aux menaces de terrorisme islamiste et de la criminalité. Cela quelques semaines après une série d'attaques terroristes commises par des étrangers sur le sol allemand. Après l'émotion suscitée par les révélations d'agressions sexuelles à l'encontre de l'abbé Pierre, l'Église de France est poussée à réagir. Le président de la Conférence des évêques de France réaffirme sa volonté d'aider les victimes et de contrer les accusations de silence depuis des années. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, il affirme que quelques évêques étaient au courant, dans le milieu des années 50, de comportements graves de l'abbé Pierre à l'égard de femmes. L'Europe centrale panse ses plaies. Après le passage de la tempête Boris, après la pluie, le vent et les torrents de boue, l'heure est à présent au bilan. Boris, qui a tué au moins 15 personnes et qui a fait de nombreux sinistrés, les dégâts sont encore difficiles à estimer. En Asie du Sud-Est, c'est le typhon Bebinka qui fait des dégâts en Chine et notamment dans la ville de Shanghai, d'autant que la région est déjà meurtrie par le passage du typhon Yagi. La Chine déjà, donc le Vietnam, le Laos, la Thaïlande et la Birmanie qui ont subi de lourds dégâts humains, au moins 400 morts et matériels après les glissements de terrain et les inondations provoquées par ce typhon. On estime même que plusieurs millions de personnes ont été affectées, Simon Rosé.
20 millions de personnes ont subi les conséquences du passage de Yagi. Les pluies torrentielles qui l'ont accompagné ont en effet provoqué des inondations et des glissements de terrain sur une large partie de l'Asie du Sud-Est, des Philippines à la Birmanie. C'est cependant au Vietnam que le typhon a causé le plus de destructions. Près d'une semaine après son passage, de nombreux villages sont encore sous l'eau. Des centaines de milliers de personnes ont été évacuées, plus de 200 sont mortes. Les maisons, près de 200 000, les infrastructures du pays, ses champs ont été durement touchés également. Le gouvernement vietnamien estime que le passage de Yagi a engendré plus d'1,5 milliard d'euros de pertes économiques. Plus à l'ouest, la Birmanie aussi a été frappée de plein fouet. La litanie des chiffres donne une idée de la catastrophe, là encore. Plus d'une centaine de morts, au moins autant de disparus, 320 000 déplacés, 5 barrages détruits. Le bilan est tel que la junte au pouvoir a fait appel à l'aide internationale, fait rare pour un régime militaire qui avait refusé l'aide humanitaire auparavant.
Le récit de Simon Rosé, chef du service environnement de RFI. On en vient à ce changement à la Commission européenne. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, a annoncé ce lundi son départ de la Commission. Il se dit désavoué par la présidente Ursula von der Leyen, qui a selon lui demandé à la France de retirer son nom à la liste des candidats. Exit Thierry Breton au profit de Stéphane Séjourné. C'est l'Élysée qui a proposé le nom du ministre démissionnaire des Affaires étrangères. Une succession de surprises pour Marie Toussaint, la vice-présidente du groupe des Verts Alliance Libre Européenne au Parlement européen de Strasbourg. La chef de file des écologistes français au Parlement regrette entre autres que la France n'en ait pas profité pour promouvoir une femme à la Commission européenne.
Il y a eu une démission de M. Breton, suivie une heure plus tard seulement par la désignation de Stéphane Séjourné. Donc le tout avait l'air très bien préparé par le président de la République, peut-être même le Premier ministre, on ne sait pas. C'est vraiment dommage à plusieurs égards. D'abord, on a un recul historique sur la parité, la présence des femmes au sein de la Commission européenne. Ça aurait donc pu être l'occasion pour la France de promouvoir une femme. J'aurais aimé une femme écologiste, engagée dans une transition dans la justice sociale, parce qu'on en manque terriblement au niveau européen, où les droites ballent le rappel tant sur l'humanisme que sur la transition écologique. Puis la deuxième déception, c'est qu'on s'attendait à ce que la démission de M. Breton soit flamboyante, peut-être même avec une saillie contre l'extrême droite en Europe. On aurait pu s'attendre à ce que, et souhaiter, que M. Breton démissionne en disant « mais moi je refuse qu'un poste de vice-président de la Commission européenne soit attribué à l'extrême droite », ce qui devrait être le cas normalement. On attend l'annonce de la composition de la Commission européenne. Finalement, c'est un double manquement de la France, un manquement à la fois eu égard à la parité, mais un manquement aussi, et c'est peut-être ça qui est le plus dommageable, un manquement de redire à Mme von der Leyen, de redire à la communauté politique européenne que l'extrême droite n'a pas sa place dans les instances de gouvernance de l'Union.
Marie Toussaint, vice-présidente du groupe des Verts Alliance Libre Européenne au Parlement européen. Elle est au micro RFI de Romain Le Maresquier à Strasbourg. Et c'est ainsi que se referme ce journal, bientôt 22h10 ici à Paris. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est dans 50 minutes tout pile avec Mathis Stimano. Et pour l'heure, comme tous les soirs, vous avez rendez-vous avec Claudie Ciard, Couleur Tropicale sur RFI. Très bonne soirée à l'écoute de la Radio du Monde.